Il ne fallait pas aller trop vite, mais il faut aller plus vite. Je ne laisserai pas pour de mauvaises raisons une lenteur injustifiée s'installer, a dit lors de ses vœux jeudi soir Emmanuel Macron à propos de la campagne de vaccination. Celle-ci va donc s'accélérer dès lundi. Les soignants de plus de 50 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés, alors que cela n'était prévu qu'à partir de février. Certains voudraient aller plus vite encore et au-delà des problématiques logistiques, cette séquence illustre une nouvelle fois le difficile exercice de la responsabilité politique. En temps de pandémie, quelles mesures, quels choix, en fonction de qui, de quoi. Bonjour Emmanuel Hirsch.
Bonjour Chloé Camberlin.
Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin, à distance, mais avec nous. Vous êtes professeur d'éthique médicale à l'Université Paris-Saclay, où vous présidez aussi le Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique. Vous dirigez l'espace de réflexion éthique de la région Île-de-France. Vous êtes à l'origine de l'initiative nationale éthique et pandémie, dont nous parlerons. Vous avez dirigé l'ouvrage Pandémie 2020, éthique, société, politique, publié en octobre aux éditions du CERF. Et votre prochain essai, La démocratie confinée, chronique éthique d'une année de pandémie, sortira prochainement aux éditions RS. Commençons donc par les vaccins. Emmanuel Hirsch, cette stratégie vaccinale qui avait été expliquée, justifiée et d'ores et déjà revue après avoir été critiquée, comment percevez-vous cette réorientation et que dit-elle des choix qui sont faits ?
D'abord, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Depuis un an, ils sont confrontés à des situations inédites. Le grand reproche qu'on peut le faire d'un point de vue démocratique, c'est qu'il n'y a pas de débat de concertation. Ce n'est pas il y a une semaine qu'on a découvert qu'on allait faire de la vaccination. Mmh. On aurait pu anticiper. Et d'ailleurs, dans le plan Pandémie 2011, qui est pour moi la grande référence, hein, c'est un plan qui avait été élaboré notamment par Roselyne Bachelot avec l'expérience du H1N1, la partie vaccinale est abordée. Et on dit qu'il faut de la concertation, il faut de la responsabilisation. Et donc, premier point, je pense que pour les arbitrages au niveau de cette stratégie qui n'en est pas une, on aurait pu associer la société. C'est-à-dire voir de quelle manière on hiérarchise d'abord la mise à disposition de ces doses vaccinales. Donc pour répondre directement à votre question, je pense qu'il n'y a pas vraiment de stratégie au niveau de la lutte contre le Covid-19. Il y a une adaptation nécessaire, mais ce qui manque, c'est les critères qui nous permettraient de comprendre les choix et de comprendre également quelle mécanique gouvernementale. On voit que les décisions s'arbitrent d'une manière assez confinée. Donc vous avez des experts qui sont des experts scientifiques dont on reconnaît la légitimité, mais ensuite l'arbitrage, c'est le président de la République qui le prend. Donc voilà, donc on est dans une situation qui est tout à fait dramatique parce que ça ajoute de la défiance à la réalité de la campagne de vaccination, alors qu'on a compris qu'il y avait un enjeu fondamental à se faire vacciner dès lors qu'on aurait des vaccins qui est d'une certaine manière probants d'un point de vue scientifique. On se retrouve dans un désordre et depuis le début de la crise, chaque décision fait l'objet ensuite de controverses et de polémiques. C'est ça qui est grave.
Oui, et alors justement, donc réclamer plus de débats, plus de concertations, c'est ce que vous faites avec cette initiative nationale éthique et pandémie, cet appel que vous avez lancé. Pour rester encore quand même sur la stratégie vaccinale, vous nous dites qu'il n'y en a pas. Au départ, les choix, ils ont été faits en fonction des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Il y avait quand même une stratégie, ou en tout cas un calendrier, différentes phases, avec d'abord commencer dans les EHPAD. Ça, par exemple, même ça, aujourd'hui, c'est remis en question. Certains disent, finalement, pourquoi commencer par les EHPAD? Finalement, est-ce qu'on a besoin d'une consultation médicale préalable, alors qu'elle est quand même prévue, cette consultation, notamment pour recevoir le consentement des personnes qui vont se faire vacciner? Est-ce qu'on n'est pas aussi un peu... est-ce qu'on a encore une boussole, quoi?
Alors, Chloé Cambrelin, je pense qu'on a une boussole. En tous les cas, j'espère qu'on a une boussole. C'était pas de la mauvaise volonté, c'était plutôt un bon choix de dire on va prendre en compte les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables, notons-le, ne sont pas uniquement dans les EHPAD. Et c'est assez péjoratif, d'ailleurs, de considérer que les personnes vulnérables, il y en a 670 000, seraient dans les EHPAD. Vous avez aussi des personnes très autonomes. Et on pourrait dire aussi quels sont leurs choix, puisque la HAS ne les a pas vraiment associés à la décision. Vous avez dans la rue 200 000 personnes vulnérables aussi. Et vous avez au domicile, en plus de 85 ans, 70% des personnes vulnérables. Donc le choix qui a été fait de privilégier les EHPAD, et moi je l'ai dit dès le départ, poser déjà le problème du consentement et le problème de structures qui sont déjà saturées de difficultés dans l'accueil des familles, dans la prise en soin des personnes. Donc pour répondre très concrètement, moi je pense que les soignants devait être privilégié. Et vous voyez, quand vous parlez des EHPAD, une étude a fait apparaître que 32% des aides-soignants dans les EHPAD ne voulaient pas se faire vacciner. Et voilà pour moi un problème de responsabilité. Vous savez, à un moment donné, Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique, a dit qu'il fallait une bulle protectrice auprès des plus vulnérables. La bulle protectrice, c'est nous. C'est-à-dire, pour moi, la vaccination, en numéro un, devait concerner les professionnels de santé. Et avec une question majeure, qui est une question politique, qui aurait pu être débattue, est-ce qu'un professionnel de santé qui intervient auprès de personnes vulnérables, qui est susceptible de transmettre le virus, a l'autorisation ou pas d'intervenir sans être vacciné? Oui. Ça a l'air de rien, mais toutes les questions fondamentales, c'est pas que je vais faire de la peine à nos auditrices, auditeurs qui sont professionnels de santé, mais toutes ces questions de responsabilité individuelle dans une situation exceptionnelle ne sont plus posables parce que le gouvernement est arrivé aux limites de l'acceptabilité sociale.
Oui, mais justement,
fragilité aujourd'hui.
Mais justement, Emmanuel Hirsch, est-ce que la stratégie qui a été présentée de commencer justement avec les résidents en EHPAD et non pas par exemple par les soignants, est-ce que ça n'a pas été fait précisément parce qu'il y a de la défiance, y compris d'une partie des soignants vis-à-vis du vaccin, et qu'au final cette stratégie, elle a été faite aussi beaucoup en fonction de ceux qui ont justement cette défiance?
Non, elle a été faite d'une manière assez idéologique. Regardez, qui va à contre-courant de ce que vous dites, ou qui oppose un point de vue à ce que vous venez de dire. Certains ont même dit qu'on commence les EHPAD parce que les gens qui sont dans les EHPAD ne seront pas en capacité vraiment de refuser, dans la mesure où ils sont dans un lieu collectif et il y a une responsabilité vis-à-vis de tiers. Vous avez même certains EHPAD qui ont évoqué la possibilité de ne plus conserver dans l'EHPAD, de ne plus héberger une personne qui ne serait pas vaccinée. Donc on a dit on commence quasiment sur les plus vulnérables. Et vous avez des textes qui ont fait apparaître d'ailleurs que c'était pas justifié puisque les essais dans le développement du vaccin n'ont pas été faits sur des personnes au-delà de 85 ans, donc les personnes qui sont dans les EHPAD. Donc là, pour répondre à votre question, je pense que le symbole était fort. De la même manière que quand le président de la République a dit on ne laissera pas tomber les plus vulnérables. Je trouve que c'est un symbole fort, même si des philosophes ensuite ont contesté cette position en disant les conséquences en termes économiques pour les jeunes générations seront délétères. Donc pour répondre sur votre affaire, je pense que ça méritait une concertation. Oui. C'est-à-dire comment on hiérarchise des choix. Et c'est ça la question éthique et philosophique ou politique fondamentale. Certains pays ont fait d'autres choix. Absolument. C'est-à-dire tout en considérant que les personnes vulnérables qui voulaient être vaccinées le soient, mais qu'on soit vulnérable en EHPAD ou qu'on soit vulnérable au domicile, on est vulnérable de la même manière. Pour moi, il y avait numéro un, les professionnels de santé. Numéro deux, les personnes atteintes de maladies chroniques et souvent les laissés pour compte, rappelez-vous, des décrocheurs qui n'ont pas été soignés. C'était également des gens qui ont des vulnérabilités. Et puis ensuite, prendre un élément à prendre en compte. On dit que beaucoup de gens dans la société ne veulent pas se faire vacciner. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent se faire vacciner qui aujourd'hui trépignent de ne pas pouvoir l'obtenir. Donc vous voyez, au niveau de la dynamique, je trouve que c'était un point important à prendre en compte. Et puis dernier point, et je vous laisse, excusez-moi, j'ai l'air bavard, mais je profite de France Culture pour dire un peu ma pensée. Sûr. Mais vous avez des pays, les États-Unis, l'Angleterre, je ne vais pas tous les citer, où les personnalités de l'État ont eu, pour moi, à mon avis, l'intelligence de dire qu'elles allaient se faire vacciner elles-mêmes. Et plutôt que de voir, comme ça a été dimanche dernier, les personnes très sympathiques qui sont vaccinées dans les EHPAD, on a aujourd'hui, et c'est ça qui est un peu scandaleux, on a 300, dans les chiffres officiels, 300 personnes vaccinées. J'aurais été très très heureux que des personnalités de l'État qui veulent donner l'exemple et qui nous font de la morale, en veux-tu, en voilà, se fassent vacciner pour montrer que, par leur acte de confiance, ils adhéraient véritablement à cette stratégie. Pour moi, il n'y a pas de vraie stratégie pour une seule raison. C'est pas de la mauvaise volonté. On a des personnes de haut niveau qui décident aujourd'hui. Je parle pas de l'administration de la santé publique. Mais je pense que aujourd'hui, on est arrivé à un degré de saturation. La société n'est plus en capacité d'accepter, j'allais dire, ce que l'État lui impose. Et donc, on navigue à vue. Et effectivement, il a fallu que l'Académie nationale de médecine, il y a deux jours, tape du poing sur la table pour qu'immédiatement Olivier Véran revienne sur une décision qu'il avait prise en disant il faut pas qu'on se précipite. C'est ça qui fragilise la société. Comment voulez-vous avoir confiance? Tout à l'heure dans le journal vous évoquiez les intermittents du spectacle, le monde du spectacle et le monde de la pensée en général. Dans nos essentiels, on est sur France Culture. Le fondamental, c'est la culture, c'est la pensée, c'est la réflexion des moments de crise. Et c'est ce qu'on balaye, j'allais dire, très rapidement. Donc, il y a hiérarchisé, dans le cadre d'un débat public, qu'est-ce qui nous est essentiel et comment on s'organise. On sait que sur le long terme, on rentre dans une situation de risque. Et je termine pour dire, le plus grand risque, c'est quand on voit ces tergiversations aujourd'hui dans la décision gouvernementale qui donne l'impression d'une improvisation. C'est ça qui nous déstabilise.
Et en même temps, Emmanuel Hirsch, honnêtement, voilà, là, on dit ça va trop lentement. Si ça avait été plus vite, il y aurait eu des gens pour dire ça va trop vite. L'exemplarité, ce que vous dites, là, voilà, vous regrettez qu'il n'y ait pas cette exemplarité de personnes du gouvernement, de l'exécutif. S'ils se faisaient vacciner devant les caméras, on dirait oui, mais ils ont des passe-droits. Enfin, de toute façon, ça ne va pas. Ça ne va pas en ce moment. C'est impossible de donner satisfaction.
Mais Chloé Camberland, dans les pays où la vaccination est faite d'une manière normale, c'est-à-dire, on a des vaccins, on vaccine. Dans ces pays-là, vous n'avez pas des gens qui disent on va trop vite. Dès lors qu'il y a eu des règles, et on ne peut pas dire que les agences internationales ne sont pas prononcées sur les premiers vaccins qui sont aujourd'hui sur le marché. D'ailleurs, qu'il y a des règles strictes, qu'il y a de la pharmacovigilance, on a compris que le risque, c'était surtout de ne pas se faire vacciner. Donc personne n'aurait dit on va trop lentement. Il y a ceux qui veulent se faire vacciner et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Uniquement, vous avez en termes, à mon avis, de stratégie, probablement, à privilégier les professionnels de santé. Voilà, on nous dit qu'à partir de lundi, les professionnels de santé au-delà de 50 ans sont vaccinés. Mais depuis l'expérience du SRAS, et soyez attentifs, il y a des textes extraordinaires canadiens de 2003 sur la vaccination. On dit que les prioritaires, c'est les professionnels de santé et tous ceux qui ont des rôles et des fonctions indispensables dans le cadre d'une pandémie. Et un dernier point qui me semble important, la vaccin n'est pas la fin de la pandémie. Il faut aussi voir que, en prenant en considération la profondeur de la crise dans ses développements dans les mois et dans les années qui viennent, on aura besoin de cohésion, de cohérence au niveau de la société, au niveau politique. Et là, encore une fois, au moment où on nous dit il y a un espoir, on casse tout, j'allais dire, à travers une tergiversation qui n'est pas acceptable. Après un an de pandémie, si on n'a pas compris comment on gouverne une pandémie, c'est-à-dire en associant la société, en la rendant co-responsable comme dans tous les textes, c'est dit, dans tous les textes internationaux, on échoue par nature. Et là, il y a un échouement ou un échec qui, pour moi, est dramatique.
Alors, associer davantage la société, c'est aussi ce que réclame depuis le début de cette crise le Conseil scientifique. Comment fait-on ça, Emmanuel Hirsch, justement, dans un moment de crise?
Et vous notez que dans le Conseil scientifique, on a Jean-François Delfraissy. On a Françoise Barrassine aussi pour CARE. Ce sont des personnes qui ont été très investies dans le domaine du sida, de la démocratie en santé. La démocratie en santé, vous savez, la fameuse loi Kouchner de mars 2002, devait être la référence, c'est-à-dire comment déjà associer les associations de personnes malades ou la Conférence nationale de santé à la décision. Ça n'a jamais été fait jusqu'il y a à peu près un mois pour des manières un peu formelles. Bien. Donc je dis, il y a des intelligences collectives. Le président de la République, en souhaitant ses bons voeux à notre pays, a évoqué toutes les intelligences, toutes les initiatives qui ont eu lieu. Aujourd'hui, au quotidien, notre force, notre démocratie, c'est de pouvoir bénéficier de cette intelligence. Qu'est-ce qu'on fait de cette intelligence? Qu'est-ce qu'il y a eu comme retour d'expérience après le premier confinement? Comment on a pris en compte ce que les acteurs de terrain, je ne parle pas uniquement du monde de la santé, nous ont appris sur comment on fait société dans un contexte de crise? Donc là, vous avez un gouvernement en solitaire, dans un conseil, j'allais dire, qui prend des décisions comme si c'était des décisions politiques, j'allais dire, secrètes, et on attend effectivement la prise de position du Premier ministre ou du Président de la République pour nous dire ce qu'on doit faire ou pas faire. Ce n'est plus possible. On a appris, y compris d'ailleurs en écoutant France Culture, ce qu'était la réalité d'une pandémie. On n'est pas naïf comme on l'était il y a un an. Et donc on n'a pas du tout changé de braquet. Pour moi, il fallait un moment fort. D'abord, on dit que le Conseil économique, social et environnemental va développer une concertation sur le vaccin dans les semaines qui viennent. Mais c'était pas dans les semaines qui viennent, c'était tout en amont, dès le départ. Donc, on a des décisions à prendre, y compris, me semble-t-il, dans les choix sur ce qui nous est essentiel. La culture nous est essentielle. On a permis, à juste titre, aux chrétiens, et j'en suis reconnaissant finalement aux autorités publiques, d'avoir eu cette forme de considération pour eux. On leur a permis de célébrer Noël, d'aller à la messe. En quoi peut-on admettre aujourd'hui, dans une société laïque, dans une société comme la nôtre, que la culture, qui nous est plus essentielle que jamais, soit mise sur le côté alors qu'elle devrait être mise sur le devant? Ça n'est pas incompatible avec des règles sanitaires, tout le monde l'a compris. Donc on a besoin vraiment d'inventer, j'allais dire, de nouvelles pratiques sociales, puisqu'on s'inscrit dans un long terme. Et on a l'impression que les politiques, en tous les cas ceux qui nous dirigent, pas les politiques en général, n'ont pas cette préoccupation. C'est-à-dire ils sont épuisés, et je le comprends, par un an à la fois d'espoir et de désespoir. Il pensait, comme le chef de l'État, qui voit l'horizon du printemps, puisque effectivement il fera peut-être meilleur et peut-être que le virus sera moins pathogène, mais c'est pas comme ça qu'on gouverne. On gouverne en associant une société. Elle est fragile, elle est fracturée, elle a besoin de se resserrer, de se retrouver autour de valeurs communes et d'un projet. Il n'y a pas de projet. Vous voyez, c'est pour ça que je suis aussi véhément. Alors, vous pouvez me dire pourquoi un professeur d'éthique médicale intervient comme ça publiquement. Parce que ça touche aussi à la santé et on arrive à un moment donné d'insupportabilité.
Et on continue à en parler avec vous, Emmanuel Hirsch, dans quelques minutes. Il est 8h30. Voici d'abord la revue de presse des idées. Et c'est avec vous, Ilan Malka. Bonjour.
Bonjour Chloé, bonjour à tous.
Pour l'exercice bien risqué du début d'année, qu'attendre de 2021 ?
Oui, alors de nombreux éditorialistes se projettent justement dans les mois à venir. Alors il y a les cas sombres et les plus optimistes, comme toujours. Commençons par le verre à moitié vide et gardons sa moitié pleine pour la fin. 2021 sera sans doute une année d'épreuve pour l'Europe, c'est ce que nous dit le Figaro. Bon, déjà l'UE est attendue au tournant sur les vaccins. Bruxelles est à la manœuvre sur les commandes et les livraisons. Quelques 2 milliards de doses ont été précommandées. Mais l'Europe est à ce stade moins agile que le Royaume-Uni et les États-Unis qui ont lancé leur campagne de vaccination avec quelques semaines d'avance. Cette année, lit-on, il y aura de nouveaux tests d'unités pour les 27. À propos des montants astronomiques des déficits, les discussions pourraient être houleuses. Et puis c'est un cycle électoral aussi qui attend l'Union, il faut le rappeler. Les élections allemandes prévues fin septembre vont forcément geler un certain nombre de décisions à partir du printemps. Alors on va aussi se plomber un peu le moral en lisant cet article canadien sur le site CTV News, article qui semble vraisemblable pour l'Europe également. Le docteur Chagla, expert en maladies infectieuses, affirme qu'il faudra du temps avant de voir les fruits de la mise en place du vaccin. Il met en garde contre le risque de perdre espoir si les premiers mois de 2021 s'avèrent être les pires que nous ayons connus en termes de nombre de cas et de décès, car la transmission devrait augmenter dans les semaines qui suivront Noël.
Et si l'on veut se remonter un peu le moral, Ilan Malka ?
Alors, on se remonte un peu le moral déjà, Chloé, dans le même article, toujours sur le site CTV News. Alors, selon cet expert en maladies infectieuses, le docteur Chagla, toujours, on peut s'attendre à voir les prémices d'un retour à la normale au printemps. Une bonne partie des populations à haut risque et de ceux qui s'en occupent seront probablement vaccinés d'ici là, ce qui réduira la pression sur le système de santé. On reprend confiance aussi en lisant le Washington Post, qui voit quant à lui une possible sortie du tunnel à l'été prochain. Plus de 100 millions d'Américains auront été vaccinés. Il pourrait y avoir à ce moment-là un retour en force de l'économie. Les travailleurs retourneront au bureau. Les consommateurs voudront satisfaire une année de demandes refoulées pour la mode, les divertissements, les repas au restaurant, les voyages. Ne prêtez pas attention aux cassandres de l'économie. Donc c'est ce que nous dit cet éditorialiste du Washington Post, Steven Perlstein. Alors vous allez me dire, tout ça c'est la presse canadienne et américaine, mais on trouve aussi dans la presse française des avis qui vont dans le même sens. De bonnes raisons d'être optimiste dès 2021, c'est une tribune dans les Échos de François Candelon et Philippe Carlson Slezak du Boston Consulting Group, c'est un cabinet international de conseil en stratégie. Eux veulent croire que les courbes de croissance mondiale ont de bonnes chances de retrouver en 2021 les niveaux d'avant la crise. Pourquoi ? Eh bien parce que la récession liée au Covid est très différente des précédentes. Elle n'a pas été causée par des surinvestissements massifs ou par l'éclatement d'une bulle financière. Non, là il s'agit d'un choc extérieur, disent-ils, à la sphère économique. Et puis pour finir de garder espoir en cette année qui vient, on lira aussi le texte de Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec des Finances. Le texte s'intitule « Les 7 secrets de 2020 », c'est sur le site Project Syndicate. Parmi ces 7 secrets sources d'optimisme, alors il y a ceci par exemple. Les gouvernements ont montré en 2020 qu'ils conservent un pouvoir inexorable. On l'a vu bien sûr avec les confinements. Ils ont même, dit Yanis Varoufakis, fait ce que personne ne croyait possible avant l'apocalypse. Ils ont annulé des événements sportifs. L'arbre à argent est réel. Les gouvernements ont soudain découvert des tas d'argent liquide pour payer les salaires, pour soutenir les constructeurs automobiles ou encore les salles de sport et les coiffeurs. Conclusion, il est désormais parfaitement clair que tout pourrait être différent. Il n'y a plus aucune raison d'accepter les choses telles qu'elles sont. Je ne peux imaginer de plus grande source d'espoir que cette révélation, affirme Yanis Varoufakis.
Merci Ilan Malka pour cette revue de presse des idées pour ce matin et pour ces derniers mois. On peut retrouver votre revue de presse sur franceculture.fr. Emmanuel Hirsch, vous êtes toujours avec nous, professeur d'éthique médicale à l'Université Paris-Saclay où vous présidez aussi le Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique. Alors 2020 nous a bien montré qu'il fallait rester humble face au futur, mais vous, avez-vous des motifs d'espoir pour ce début d'année ?
Je pense d'abord que tout n'a pas été un échec, puisque la société a vécu des moments démocratiques extraordinaires, qu'on a vu apparaître, alors qu'on doutait après les gilets jaunes de la cohésion sociale et des valeurs de notre société, on a vu des choses tout à fait exceptionnelles dans la mobilisation de la société. Donc moi je suis un enthousiaste. Uniquement, mon désespoir, c'est que le gouvernement ait telle défiance vis-à-vis de la société. Et réciproquement, la société a une défiance vis-à-vis de la manière de gouverner aujourd'hui. Je ne mets pas en cause, encore une fois, les personnes. Je mets en cause la méthode. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Là où je dis qu'il y a quelque chose à faire, optimiste parce que aussi, regardez la France apprenante, et France Culture en est une très belle démonstration, les gens ont appris, les gens ont envie de culture. Ils ont envie donc d'autre chose, et l'espérance, c'est pas de se dire uniquement l'après Covid-19, c'est la liberté, c'est la responsabilité qui pour moi est au rendez-vous. Et il manque ce discours, si vous voulez, moral au niveau de la société. C'est pour ça que j'ai besoin du monde intellectuel. L'État a quand même, avec intelligence, su mobiliser à peu près 1 milliard d'euros pour soutenir aussi le milieu de la culture. Mais c'est pas pour le soutenir pour la presse, c'est maintenant. Voilà. On rentre, à mon avis, dans une nouvelle phase, et la phase de la responsabilité partagée me semble tout à fait essentielle. Que le gouvernement ait fait ses choix, qui sont quelquefois contestables, il n'a pas fait que des mauvais choix ces derniers temps, c'est une chose. Maintenant, changeons de registre. Et je suis, moi, pour une concertation nationale. Je suis aussi pour le milieu des intellectuels.
Comment l'imaginez-vous, cette concertation? Expliquez-nous un peu concrètement comment il faudrait que ça se passe selon vous.
Pour moi déjà, on a parlé tout à l'heure, Chloé Cambrien, on a parlé de la vaccination. Je pense que ça aurait été tout à fait intéressant, il y a déjà à peu près 6 mois, de consulter. On a un site dédié pour tout ce qui est consultation nationale. Pour prendre un premier point, on a un site dédié, mais on a aussi un milieu associatif, on a tout un ensemble de réseaux, on a aussi les élus, on a tout un ensemble, si on veut, de relais, de proximité que peuvent faire remonter de la discussion. Alors, je sais que, quand je dis le grand débat était quelque chose d'intéressant, non pas dans ses conclusions, puisqu'on n'en a rien fait, mais dans son organisation. Pour avoir participé à certaines réunions du grand débat, j'ai vu l'envie de démocratie, l'envie d'échange et la capacité d'intervention. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de structures qui peuvent être consulté. D'ailleurs, le président de la République en a pris la décision. Le Conseil économique, social et environnemental va mettre en place, mais trop tard à mon avis, un groupe citoyen pour, j'allais dire, déterminer les choix. Ce qu'avait fait d'ailleurs l'HAS, hein, on a moins parlé, les choix en matière de stratégie vaccinale. Je pense que c'est trop tard. Mais sur des sujets de fond, par exemple sur nos essentiels. Je voyais une étude qui faisait apparaître que les Français avaient été globalement un peu indifférents à la cause de la culture, c'est-à-dire aux revendications de réouverture des salles de spectacle ou de cinéma. C'était pas leur priorité. J'arrive à le comprendre. Mais il y a tout un travail, à mon avis, de débat social pour qu'est-ce qui nous est essentiel aujourd'hui. Ce à quoi on est attaché, ce qui nous est fondamental. Et je me permets d'inviter, il n'y a pas, j'allais dire, le monde intellectuel par rapport à celui qui ne l'est pas, mais tous les acteurs de la vie sociale, à ne pas se limiter à faire de la critique sur le fait, comme certains intellectuels l'ont fait, qu'on a fait les mauvais choix en priorisant les plus vulnérables au détriment de notre économie. Je pense qu'on a maintenant besoin d'un débat mature. Il faut prendre des initiatives au niveau du Parlement, au niveau des différentes instances représentatives, pour qu'il y ait du débat. On a besoin de paroles, on a besoin d'échanger, on a besoin également, et c'est pour moi fondamental, d'admettre ce que va être la société du risque à laquelle, j'allais dire, on va être confronté, j'allais dire, dans les années qui viennent. Il n'y avait pas que le risque d'une pandémie. Vous avez les risques NRBC, nucléaire, bactériologie, chimique, etc. Vous avez le terrorisme. Donc on rentre dans un moment où si on n'intègre pas une culture de l'exposition à des risques, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, ce qui est proportionné, ce qui n'est pas proportionné. Vous voyez, par exemple, aller dans une salle de spectacle, pour prendre un exemple très très concret, il y a effectivement des risques qu'on peut, j'allais dire, contrôler et qu'on peut maîtriser, mais il y a aussi tellement d'avantages au niveau de la symbolique et de ce que ça signifie. Donc je pense qu'on a besoin d'échanger. Je suis pas aux affaires, hein, vous avez remarqué que moi je suis dans mon petit coin philosophique, je suis pas aujourd'hui responsable au niveau de l'État. Mais nous avons pris une initiative, vous regarderez sur le site Éthique et Pandémie, en regroupant des personnes de la société civile, hein, c'est des chefs d'entreprise, des membres d'associations, mais aussi des philosophes,
des professeurs de santé publique, de droit public.
Vous avez vu la représentativité. Et on a commencé un travail il y a déjà quelques semaines. Et on travaille, par exemple, on va sortir un document sur comment rétablir de la confiance, restaurée. Le principe confiance dans un contexte où il a été tellement malmené. Alors donc on a tout un ensemble de thématiques qu'on va travailler. On le fait comme beaucoup d'autres think tanks remarquables font un travail. Mais ce à quoi, je ne vais pas me dire, Chloé Cambérion, mais je suis le plus attentif, c'est la créativité associative de terrain. On peut même pas s'imaginer. Et vous voyez, moi, j'aurais été le gouvernement, j'aurais déjà fait un inventaire général, c'est-à-dire j'aurais mis sur un site toute la créativité, tout ce qui s'est passé d'exceptionnel et qui donne à notre démocratie une image, j'allais dire, de valorisation comme jamais.
Et on en a parlé la semaine. On en a parlé la semaine dernière de tout ça avec Pascal Brice, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Dans le livre que vous avez dirigé, Pandémie 2020, éthique, société, politique, Emmanuel Hirsch, vous écrivez une pandémie d'un autre temps nous a figé dans le présent. C'était à l'époque après le premier confinement. Finalement, est-ce que le problème, et aussi pour travailler justement sur qu'est-ce qu'on fait, comment on associe la société, etc., est-ce que le problème que l'on a, c'est que justement, on est encore aujourd'hui, 10 mois après le début, figé dans le présent?
Je pense que, d'abord, on l'a vu aussi dans beaucoup des débats et des émissions sur France Culture, on a un présent qui est révélateur d'un certain nombre de questions qu'il fallait se poser et pour lesquelles on tergiversait. Pas uniquement en termes d'environnement et de devenir la planète, mais qu'est-ce que c'est une société, qu'est-ce que c'est une démocratie. C'est-à-dire, on voit affleurer depuis des mois des questions qui étaient sous-jacentes et qu'on n'osait même pas poser parce qu'on ne pensait pas qu'on était capable de les poser, de les assumer. Là, on n'a pas le choix. Donc vous avez aujourd'hui, et c'est là où je dis qu'il y a besoin de débat, d'identifier d'une manière un peu en hiérarchisant en quelque sorte les priorités, les questions les plus importantes. Vous voyez la question, par exemple, qu'on a évoquée au tout début à travers les EHPAD, des vulnérabilités dans la société. Rien ne signifie davantage nos vulnérabilités ou les incarne qu'une pandémie. On est tous vulnérables. Mais une fois qu'on a dit ça, quelles sont nos forces et comment être avec plus de sollicitude vis-à-vis des plus vulnérables qui aujourd'hui sont les malmenés de la pandémie. Je veux dire par là qu'on vit depuis des mois une épreuve de vérité. Qu'est-ce qu'on fait de cette vérité et comment on construit un projet de société? Moi, je serais chef de l'État à 2 ans d'une échéance électorale. Je serais passionné de dire on va reconstruire. Je ne me fixerai pas un horizon pour 2030 en disant l'espoir c'est pour 2030. C'est maintenant. C'est-à-dire comment reconstituer une société? Et dans la démarche du livre Pandémie 2020, j'ai réuni 131 personnes, acteurs de terrain, intellectuels, pour dire comment on voit la réalité immédiate, hein, c'était pendant le confinement, et comment s'en sortir. Et à mon avis, la sortie de la pandémie est tout à fait fondamentale. Les choix qu'on va faire aujourd'hui vont déterminer l'avenir de nos sociétés, et c'est ça qui est important.
Et en même temps, comment fait-on ça quand on est en crise, du point de vue, je veux dire, du tout gouvernement, de l'exécutif,
la crise c'est aussi l'urgence négative. À gérer. La crise, c'est aussi le questionnement, c'est-à-dire on est en question, on est en cause, et on peut à nouveau prendre des initiatives. C'est aussi une forme de liberté, parce que dans ce moment chaotique et dramatique pour toutes les victimes de la pandémie, et regardez, victimes dans notre pays, l'accroissement des précarités, mais dans le monde aussi, c'est toutes ces dimensions. Encore une fois, moi je suis assez fanat de France Culture, donc tout ça, vous le dites au quotidien. Et vous le dites d'autant mieux que la pandémie a rendu possible une parole un peu différente. On peut plus se permettre, j'allais dire, les détours. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Et je trouve que c'est un super défi en ce début d'année de se dire qu'on a cette responsabilité. C'est pas uniquement d'essayer avec le vaccin de temporiser ou de trouver la solution. Elle viendra, la solution. Mais la solution, pour moi, première, c'est de recréer de la démocratie, de la vigueur démocratique et de se dire que on a ce défi aujourd'hui à jouer. Je regarde des universités, puisqu'on est aussi dans le monde universitaire à France Culture. Des universités ont pris des initiatives extraordinaires pour aider les plus précaires, pour, avec l'intelligence artificielle, développer des programmes au service de la lutte contre la pandémie. Donc vous voyez, toutes ces intelligences, c'est pour ça que j'ai un peu de véhémence, ça vous paraît très surprenant, mais moi je suis un convaincu qu'on peut sortir par le haut, c'est-à-dire qu'on peut créer quelque chose d'important, notamment au niveau d'une réflexion partagée et du plaisir ensemble de redéfinir les contours d'une société et d'avoir un vrai projet. On peut, cette année, me semble-t-il, et moi comme auditeur de France Culture, je me nourrirai régulièrement de vos émissions, on peut créer du projet, être inventif. Et à travers notre expérience, puisque chacun a été marqué par la pandémie ces derniers mois, essayer de trouver comment on se situe, comment on s'ajuste par rapport à une société.
Et réussir aussi à regarder au-delà de nous-mêmes et résister à la tentation du repli. Vous avez publié aussi récemment dans Libération, Emmanuel Hirsch, une tribune dans laquelle vous rappelez que toutes les questions que nous nous posons à propos du vaccin sont en quelque sorte aussi des questions de riches, dans le sens où une partie de l'humanité n'est pas en mesure de se poser ces questions. Vous restez avec nous, il est 8h45 et voici donc le dernier quart d'heure des samedis qui commence avec Matteo Caranta.